Libre à vous. L'émission de l'April, association de promotion et de défense du logiciel libre. Une émission de la radio Cause Commune.
Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, désolé, le jingle générique de début avait changé. Eh bien, donc, nous sommes très heureux, très contents d'être de retour donc, sur Cause Commune après une petite pause. Donc, c'est l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Alors, la radio dispose d'un web chat, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web, vous rendre sur causecommune.fm. Et cliquez sur le bouton de chat et vous pourrez ainsi être en direct avec nous sur le web chat de la radio. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Donc mon collègue Étienne Gonu est avec moi également. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Et je présenterai tout à l'heure les deux invités du jour avec nous en studio. Donc je vous rappelle le site web de l'April, april.org. Vous pouvez déjà y retrouver une page consacrée à cette émission avec un certain nombre de références que nous citerons au cours de l'émission. Après l'émission, nous mettrons à jour la page. Effectivement, évidemment, si nous citons d'autres références, donc vous allez sur le site april.org. Alors déjà, on va commencer par une annonce. Pour les personnes qui écoutaient l'émission en 2018, vous vous rappelez sans doute que nous étions en mensuel. Eh bien, nous avons décidé de passer à partir de cette première émission de janvier en hebdomadaire. Donc, nous allons nous retrouver chaque semaine. Le mardi de 15h30 à 17h, donc pour évoquer des sujets autour du logiciel libre. Alors je vous souhaite une excellente écoute pour cette première émission de l'année. On va passer au programme de l'émission. Alors, nous allons commencer par une intervention téléphonique de Marie-Odile Morandi, qui s'occupe des transcriptions à l'April. Elle va débuter une chronique qui s'appelle « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Ensuite, d'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur la présentation des actions de la DINSIC, alors DINSIC, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État, ainsi que celle de la mission Etalab, chargée notamment de la politique d'ouverture et de partage des données publiques du gouvernement français. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Laurent Joubert, qui travaille à la sécurisation des grands projets informatiques de l'État, c'est ça ? Bonjour Laurent.
Tout à fait, bonjour à toutes et à tous.
Également présente avec nous Mathilde Bras, qui s'occupe du programme Entrepreneur d'intérêt général. Bonjour Mathilde.
Bonjour à toutes et tous.
Et ensuite, aux alentours, bon, on devrait dire de 16h45 plutôt, Étienne nous fera un point sur la prise en compte des logiciels libres de caisse par le ministère des Finances et par la loi de finances. Donc un sujet qui paraît un petit peu austère, mais qui est très important et dont il essaiera de nous faire en une dizaine de minutes un petit résumé de la situation. Et à la réalisation de l'émission, notre ami Olivier Grieco. Bonjour Olivier. Et également, je salue Didier et Patrick, qui sont en studio aussi, qui sont des bénévoles de l'April. Donc Didier Clermonté et Patrick Creusot, qui assureront de temps en temps la régie de l'émission. Donc tout de suite, on va passer au premier sujet. Donc normalement, nous avons avec nous au téléphone Marie-Odile. Marie-Odile, est-ce que tu es avec nous ?
Oui, bonjour, je suis là.
Alors bonjour Marie-Odile. Donc Marie-Odile, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'occupes du groupe transcription à l'April. Donc tu fais un travail absolument phénoménal de transcription d'audio, de vidéo. Et on va débuter une chronique, donc en ce début d'année, tu vas nous présenter trois chroniques, ou des fois plus, qui te semblent importantes, donc un petit peu tes coups de cœur pour lesquels tu souhaiterais que les gens lisent ces chroniques. Donc on va commencer peut-être par la première. C'est quoi le coup de cœur de cette début d'année ?
Eh bien, le coup de cœur de ce début d'année, c'était une émission « Les Amis d'Orwell » sur Radio Libertaire. Et cette émission était intitulée « À l'école du Big Data ».
Alors, pourquoi ce coup de cœur ?
Eh bien, en tant qu'enseignante, bien que je sois à la retraite depuis de nombreuses années, tout ce qui concerne ce qui se passe dans les établissements scolaires m'intéresse encore beaucoup. Et dans les sujets qui ont été traités dans cette émission, j'ai tout à fait pu me reconnaître.
Alors, de quoi est-il question dans cette émission qui s'appelle « À l'école de Big Data », du Big Data ?
Alors, dans cette émission, il est question du fichage de nos enfants, du fichage des élèves. On le soupçonnait, mais grâce aux intervenants, c'est très clair, nos enfants sont tous fichés dès l'école maternelle. Ça continue à l'école élémentaire et puis bien entendu, ça continue au collège et au lycée, même si les fichiers changent de nom à chaque fois. Et les intervenants de cette émission appellent ça un fichage républicain.
D'accord. Et que s'est-il passé récemment pour que ce fichage, qui est quand même assez ancien, devienne si possible encore plus problématique ?
Eh bien, en début d'année scolaire, il y a eu des évaluations, comme il y en a régulièrement au sein de l'éducation nationale, c'est tout à fait normal, et des évaluations qui se sont déroulées en cours préparatoire, en sixième et en classe de seconde, donc les classes qui sont des paliers. Sauf que ces évaluations, cette année, se sont faites totalement de façon informatique. Les enfants passaient des évaluations sur des ordinateurs ou sur des tablettes. Donc, tout était remonté de façon automatique. Et on a eu de gros doutes sur l'anonymisation de cette remontée. On ne sait pas exactement à quel endroit s'est faite cette anonymisation et même si elle a eu lieu. D'autre part, dans l'émission, on nous explique que le ministère de l'Éducation a passé des accords avec une société luxembourgeoise. On apprend que ces données sont hébergées sur des serveurs d'Amazon situés en Irlande. Enfin, tout ça ne manque pas de laisser fortement perplexe.
Oui, pour le moins qu'on puisse dire, oui. Et donc, alors, qui sont les personnes qui interviennent dans cette émission et que pensent-elles de ces évaluations et de ce fichage des enfants ?
Alors, les gens qui interviennent dans cette émission, ce sont des enseignants et des personnels de vie scolaire. Alors, je vais passer sur leurs réflexions concernant la façon dont les évaluations, les épreuves devaient se dérouler, avec des indications très précises qui étaient données aux enseignants. Leur souci, c'est donc le problème d'anonymisation qui n'est pas très clair. Ce qui est inquiétant pour ces personnes, puisqu'elles sont adultes, elles sont enseignantes, elles pensent qu'il y a forcément un projet politique derrière tout cela et mis certainement en œuvre depuis de longues dates. On veut supprimer les fonctionnaires, on veut diminuer le nombre de fonctionnaires de l'État. Avec ces évaluations, on pourra juger du travail des enseignants. On pourra les rémunérer au mérite. Et le mérite, ce sera si les élèves ont réussi les évaluations, ben, vous aurez droit à votre mutation. Si les élèves n'ont pas réussi les évaluations, ben, vous restez où vous êtes. D'autre part, ces évaluations peuvent être cédées à des sociétés privées avec de la publicité ciblée. Et puis, des sociétés privées pourront vendre aux familles des cours clés en main pour pallier au manque de l'éducation nationale et pour améliorer les parcours des enfants.
Et les élèves sont concernés aussi.
Ah ben oui, tout à fait. Les élèves sont conservés. Les élèves sont concernés parce que là, on a affaire à un véritable, disent les intervenants de cette émission, à un véritable CV numérique. Bon, je passe sur les histoires de jargon de l'éducation nationale, les compétences, les passeports. Mais on a peur que l'orientation à court et à moyen terme des enfants soit faite en utilisant ces évaluations. On a peur pour leur future employabilité à eux aussi. On a peur que de futurs employeurs puissent avoir accès à ce qui s'est passé des années auparavant les concernant.
Donc pas de droit à l'effacement et en fait aucun droit à l'oubli. Je crois me souvenir qu'il est aussi question d'un autre outil très répandu dans les lycées et les collèges, l'outil Pronote. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, donc cet outil Pronote qui est vendu par une société privée aux établissements scolaires. Donc les établissements scolaires payent cet outil privé. Un des intervenants parle d'usine à gaz. Moi, je peux l'appeler couteau suisse parce qu'avec Pronote, on peut tout faire. On fait l'appel des élèves, les retards, les absences, les sanctions. Chaque enseignant doit insérer sur Pronote ce qu'il a fait à chaque heure. C'est le cahier de texte du professeur, c'est le cahier de texte des élèves. Les élèves se connectent et voient quels sont les devoirs qu'ils ont à faire. Donc, plus grave encore, les notes concernant les contrôles sont reportées au jour le jour. Et puis, à la fin de chaque trimestre, les enseignants remplissent les bulletins trimestriels avec les appréciations. Le prof principal remplit une appréciation générale et puis la direction de l'établissement peut aussi mettre une appréciation. Bien entendu, toute la communauté scolaire a accès à Pronote et même un inspecteur qui annonce sa venue, on lui fournira un code. Donc tout le monde, tout est centralisé, tout le monde est content, sauf que personne ne se rend compte, d'après les intervenants, bien entendu, je suis d'accord avec eux, que là, on a dans les mains un outil qui permet un traitement de données à caractère personnel.
Alors, est-ce que...
Avec un côté apprenti sorcier, comme l'a dit une des intervenantes de l'émission.
D'accord. Est-ce que les parents sont avertis et qu'en est-il de leurs droits ?
Les parents devraient avoir les droits qui sont conférés par la loi informatique et liberté, sauf que d'après l'émission, les parents ne sont guère avertis de ce qui se passe, ou ils sont avertis après coup, et bien entendu, après, quand tout est déjà enregistré, tous les fichiers sont remplis, il est difficile de s'opposer, de faire rectifier. Et puis, dans l'émission, on nous présente le cas d'une famille et le cas personnel d'une des intervenantes pour son enfant. Et ces gens nous expliquent que c'est tout à fait le parcours du combattant pour faire effacer les données concernant leurs enfants de ces fichiers.
D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots de conclusion sur cette émission, peut-être en tant qu'enseignante ou ancienne enseignante ?
Ah oui, alors là, quand on écoute cette émission, on est parfaitement époustouflé. Effectivement, quand on nous a mis cet outil dans les mains, tout le monde était content. On pouvait faire du travail administratif ennuyeux de chez soi à l'heure qu'on voulait. Et on ne se rendait pas compte qu'effectivement, on avait entre les mains un outil pour lequel eh bien, la vie scolaire, la vie numérique, la vie scolaire des enfants est parfaitement enregistrée.
D'accord.
Et on se rend compte qu'actuellement, autrefois, quand c'était des documents papier, il était interdit de les sortir de l'établissement scolaire et même de la salle des professeurs. Et puis actuellement, toutes les données concernant des enfants sont partout, sauf dans leur école. Donc c'est une émission, je conseille de réécouter l'émission. Je conseille de lire la transcription si les gens n'ont pas le temps d'écouter l'émission, mais c'est une émission qui oblige chacun d'entre nous à réfléchir, parce que chacun d'entre nous, de près ou de loin, nous avons des enfants autour de nous. Et on est bien loin de la confiance, de l'école de la confiance qui est vantée par le ministre de l'Éducation actuel. Protégeons nos mineurs.
D'accord, merci Marie-Odile. Donc l'émission, c'est Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. C'est à l'école du Big Data et sur la page consacrée à l'émission de l'April sur april.org, vous trouvez un lien vers la transcription. Alors ça, c'était ton coup de cœur, donc tu as évidemment bien détaillé pourquoi il fallait lire cette transcription ou écouter l'émission. Tu as deux autres émissions, en tout cas transcriptions, dont tu aimerais parler, alors peut-être un peu plus court. Donc le premier, c'est un sujet que nous avons abordé dans cette émission, hein, téléphonie mobile et liberté, donc c'était le Libre à vous du 6 novembre. Donc les deux intervenants parlaient effectivement de la téléphonie mobile et des pertes de liberté et comment essayer de les regagner. Donc pourquoi faut-il écouter cette émission ?
Oh ben parce que chacun d'entre nous est concerné par cette émission, parce que chacun d'entre nous désormais porte dans sa poche ce qu'on appelle un téléphone portable et qui ressemble de plus en plus à un ordinateur qui nous surveille.
Et donc dans cette émission, il y a eu un tableau, donc selon toi, assez sombre en fait concernant nos libertés, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le début de l'émission, il y a une présentation des deux produits les plus courants qu'on trouve sur le marché, donc le produit Apple, l'iPhone, qui nous enferme totalement dans une prison dorée. Et c'est toi-même, Frédéric, qui a dit, c'est en quelque sorte une vente forcée, matérielle et logicielle. Et avec ce produit, Apple nous demande de lui faire confiance. Il y a une présentation du système Android qui est installé par tous les fabricants de téléphones, plus ou moins libre et plus ou moins modifié par les fabricants de téléphones. Donc effectivement, le début de l'émission était assez sombre concernant nos libertés avec nos téléphones.
Alors par contre, la suite de l'émission, des pistes ont été évoquées, on ne va pas toutes les répéter, mais selon toi, quelle est la première piste pour essayer de regagner un peu de liberté qui peut être mise en œuvre par à peu près n'importe qui avec son téléphone mobile ?
Oui, Alors, donc, les premières pistes, effectivement, ce sont des pistes qui sont en cours et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, enfin, à mon avis. Par contre, on a eu une explication assez claire concernant le magasin d'application F-Droid, le projet F-Droid. Donc, c'est le produit qui me semble le plus facile pour commencer à libérer nos téléphones, puisqu'il suffit d'installer l'application F-Droid sur nos téléphones et à partir de là, de télécharger les produits dont on a besoin, probablement en commençant par le moteur de recherche qui sait tout ce dont on a besoin.
Alors effectivement, voilà. C'est assez marrant parce qu'en arrivant en métro dans l'émission, en fait, Patrick Creusot a installé F-Droid sur son téléphone. Alors je précise que pour installer F-Droid, par contre, il y a un petit truc à savoir. Il faut activer l'autorisation d'installer des applications tierces, sinon vous ne pourrez pas l'installer. Mais en tout cas, c'est un magasin d'applications libre, donc vous pouvez retrouver l'équivalent pour lire vos courriels, faire des réseaux sociaux. Donc ça s'appelle F-Droid et effectivement, c'est la première action à faire pour gagner des libertés. Donc ça, c'est l'émission donc, du 6 novembre sur Téléphonie mobile et Liberté. Pareil, vous retrouvez la référence sur le site de l'April. On va finir rapidement par... Les micros sont ouverts, Laurent, effectivement. On va finir rapidement par la dernière transcription dont tu conseilles la lecture. Donc là, c'est une interview de notre camarade Jérémy Zimmermann d'octobre 2018, intitulée « 1984, manuel d'instruction ». Alors en une minute, pourquoi il faut lire cette transcription, Marie-Odile, s'il te plaît?
Mais je pense que, bon, Jérémy Zimmermann, on le connaît, c'est pas la première fois que le groupe Transcription transcrit certaines de ses interventions. Et je pense que cette interview était une bonne synthèse de tout ce qu'il a fait durant ces dernières années et de toutes ses opinions concernant, disons, les processus européens de création des lois. Et puis, il a un regard très affairé sur la vie politique actuelle. Et puis, bien entendu, il nous rappelle ses luttes et il nous rappelle ce qu'il faudrait faire pour que le logiciel libre et les libertés numériques soient encore plus, plus à notre portée.
Donc c'est une transcription, donc une interview, je crois, d'une heure ou d'une heure et demie. Je crois que c'est une interview vidéo, si je me souviens bien. Donc c'est 1984, manuel d'instruction. Rappelle-moi le titre de la transcription, excuse-moi.
Alors, 1984, manuel d'instruction.
Voilà, d'accord. Donc pareil, la référence est sur le site de l'April. Donc Jérémy Zimmermann, qui est un ancien membre du conseil d'administration de l'April, ancien porte-parole de la Quadrature du Net, qui est toujours membre de l'April et à qui on fait de gros bisous là où il se trouve actuellement. Mais écoute, merci Marie-Odile pour cette donc chronique, les transcriptions qui redonnent envie de lire. On se retrouvera, je pense, le mois prochain pour une seconde chronique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, je pense qu'on a fait le tour et j'encourage les personnes qui n'ont pas le temps d'écouter les émissions qu'on choisit de transcrire, de lire les transcriptions et puis d'approfondir si elles en ont le temps.
C'est une excellente conclusion. Je crois qu'au nom d'ailleurs de toutes les personnes qui participent à des émissions et autres, on te remercie, ainsi que les personnes qui font des relectures, de transcrire tous ces propos. Et je rappelle qu'évidemment, le groupe Transcription est ouvert à toute personne qui souhaite contribuer. Il suffit de s'inscrire sur la liste de discussion qui est également en référence sur le site de l'April. Mais écoute, Marie-Odile, je te souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir. Donc nous allons avancer et donc passer au second sujet. Donc DINSIC Etalab, alors deux mots qu'on va évidemment expliciter. Donc dans un premier temps, on va essayer de revenir sur un petit peu sur un historique de, on va dire, de la place de l'informatique, de l'administration électronique au sein de l'État français et d'expliquer ce que font ces deux structures, donc la DINSIC et la mission Etalab. Donc je rappelle que nous sommes en compagnie donc de Laurent Joubert et de Mathilde Bras. Alors Laurent, est-ce que tu veux commencer par nous faire un petit rappel historique de la situation et nous expliquer ce qu'est la DINSIC?
Donc la DINSIC, c'est la DSI groupe de l'État. Ça veut dire que donc, la direction des systèmes d'information, plutôt une direction des systèmes d'information stratégique et qui anime les différentes directions des systèmes d'information des ministères. Donc on s'occupe de l'administration centrale et en plus d'interagir avec les ministères sur tous les systèmes d'information, on est aussi en lien avec toutes les autres agences interministérielles comme l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la direction du budget, la direction des achats de l'État, ou également la DGAFP, qui est en fait la DRH de l'État, la direction des ressources humaines, donc pour tous les aspects numériques et informatiques.
D'accord. Et est-ce que c'est la première structure qui existe sur ce sujet ?
Donc, la direction, la DINSIC, a été créée en 2011. Elle est donc assez récente. Et elle est passée par différentes étapes. En 2014, il y a eu la création du SI unique de l'État. Donc ça, c'est une étape importante.
Du SI unique, du système d'information unique.
Du système d'information unique de l'État. Parce que jusque-là, on avait des systèmes d'information ministériels. À partir de 2014, il y a cette création du système d'information unique de l'État qui a été rattaché sous l'autorité du Premier ministre. Et puis en 2015, on a rajouté un N à DINSIC, qui est devenu DINSIC pour numérique. Et le N a été aussi le rattachement d'État Lab et de l'incubateur de start-up d'État, qui s'appelle beta.gouv.fr. Depuis, nous sommes cette entité et nous nous occupons non plus que des systèmes d'information, mais aussi du numérique globalement pour les administrations centrales.
D'accord. Donc, avant de passer la parole à Mathilde, justement pour la partie mission État Lab, j'aurais rappelé quand même qu'il y a un historique assez fort en fait des agences de l'État autour, on va dire, de l'informatique, etc. Parce que la première agence qui avait été créée, alors il y a une des évolutions aujourd'hui, et c'est intéressant de le voir, c'est en 98, c'est la mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration. Donc c'est la MTIC pour les personnes qui s'en souviennent. À l'époque, je crois me souvenir que son directeur était Jean-Pierre Darderolle. Et ensuite, il y a un certain nombre de structures qui se sont succédées. Donc il y a eu l'agence pour le développement de l'administration électronique, il y a eu la direction générale de la modernisation de l'État. Il y a eu l'ATICA. Bon, l'ATICA, j'avoue, j'ai un trou de mémoire sur ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, c'est pas récent, c'est une suite logique, avec une évolution, effectivement, qui semble importante. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le système d'information de l'État, c'est d'essayer le rôle de plus en plus central, finalement, de cette agence par rapport aux autres agences ou de mémoire. Le rôle, notamment, avec les deux autres directions des systèmes d'information des ministères, était plus souple, ou en tout cas, l'agence avait moins de pouvoir, entre guillemets, moins de rôle par rapport à ces directions de système d'information de chaque ministère.
Là, c'était plus à côté. Avec la DISIC en 2011, il y a bien la création de cette DSI Group. On pourrait résumer trois missions. On a une mission d'autorité. Donc ça, c'est assez important. On peut édicter un peu des règles auprès des autres DSI ministériels. On a un rôle d'accompagnement pour permettre justement d'accompagner les réformes et d'être capable de mener des grands projets informatiques. Et on a un rôle de ressource où on est là aussi pour proposer concrètement des aides. Donc ça, c'est important.
D'accord. Alors, tu as parlé de la mission État Lab. Donc, Mathilde Bras, est-ce que tu peux nous présenter la mission État Lab, son rôle et puis ses objectifs ?
Bien sûr. Donc, la mission État Lab, comme l'a rappelé Laurent, elle a rejoint ou elle a été intégrée dans la DINSIC en 2015. Mais elle a également été créée en 2011. Et elle était à l'époque directement placée sous l'autorité du Premier ministre. Et c'est un peu comme la DINSIC, ses fonctions ont évolué au cours du temps. À l'origine, État Lab, sa première mission cœur était de favoriser l'ouverture des données publiques. Vu qu'en 2008, on avait eu la conférence de Sébastopol sur l'ouverture des données publiques au niveau international, il a fallu ensuite pouvoir développer cette politique d'open data, excusez-moi de l'anglais, on l'utilise beaucoup, donc cette politique d'open data au niveau national. Donc en effet, le premier développement de la mission État Lab, ça a été vraiment de mettre en place cette politique d'open data qui a commencé finalement par beaucoup de pédagogie et la construction de la plateforme data.gouv.fr, qui est la plateforme interministérielle qui recense l'ensemble des données produites et circuler au cœur de l'administration. Et au cours du temps, via les rapprochements avec la DISIC, alors même qu'on était quand même en France et en Europe en train de voir le numérique évoluer et rentrer de plus en plus dans notre quotidien, on a trouvé utile et bénéfique d'intégrer État Lab dans la DINSIC. Et donc, au cours de cette intégration, donc depuis l'année 2015, plusieurs missions ont été rajoutées au portefeuille d'État Lab afin d'incarner également les trois grosses missions de la DINSIC. Donc, l'autorité, on a participé de manière très active à la rédaction de la loi pour une République numérique.
De 2016,
exactement. Et maintenant, nous sommes en charge d'accompagner les ministères à appliquer cette nouvelle réglementation. Donc, on accompagne finalement également les ministères autour de la mise en œuvre de la loi pour une République numérique. On a intégré la fonction de l'administration générale des données, qui concerne plus non plus l'ouverture des données publiques, mais la circulation des données entre les administrations, ce qui est cœur lorsqu'il faut moderniser des services publics. On a également pris des fonctions autour de l'innovation, puisqu'en parallèle des missions de l'incubateur des startups d'État, on a créé le programme Entrepreneurs d'intérêt général. Et donc enfin, pour terminer, on est également pourvoyeur de ressources et d'outils, puisqu'en plus de la plateforme data.gouv.fr, on met en place des produits, des micro-petits outils qui permettent de faciliter l'exploitation des données et la mise en place de services.
D'accord.
Bon, Laurent, peut-être oui. Pour compléter, il y a un point qui est important parce qu'il y a beaucoup un peu de fausses idées sur la DINZIC aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est un peu plus d'une centaine.
Justement, ça tombait bien. J'avais une question sur les effectifs actuels, les effectifs à venir. Donc une centaine actuellement.
Un peu plus d'une centaine. On doit être précisément à 140 là. Et donc il faut voir que par rapport aux différentes missions, on est découpé en trois tiers. Il y a un tiers qui concerne le service à compétence nationale du réseau interministériel d'État. Donc ça, c'est un réseau qui est propre pour connecter les différentes administrations entre elles. Il y a un tiers qui regroupe toutes les fonctions, je dirais plus DSI stratégiques, et un tiers qui concerne les effectifs sur la mission Etalab et l'incubateur.
D'accord. Est-ce que tu as une idée, en comparaison par rapport à d'autres structures dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Estonie, alors peut-être une question PH, si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, hein, c'est... Est-ce que vous avez une idée, tous les deux, du nombre de personnes qui travaillent dans ces structures, par exemple en Estonie ou ailleurs?
En termes d'échelle, c'est difficile de comparer avec l'Estonie, puisque c'est un pays qui est quand même plus petit.
C'est vrai.
Et le modèle est différent. Donc, j'imagine, mais je ne suis pas du tout sûre de moi, je pense qu'ils sont moins que nous, en effectif.
En fait, on a fait des mesures comme ça avec d'autres pays. Typiquement, si on se compare aux anglo-saxons, avec la partie GDS en Angleterre.
C'est quoi GDS?
Government Digital Services. C'est aussi l'équivalent de la DINZIC au niveau du Premier ministre.
D'accord.
Ou aux États-Unis, ils sont proportionnellement un peu plus nombreux, mais avec des missions aussi un peu plus larges. Donc, ça peut aller jusqu'à 4-5 fois... la taille de ce que peut être la DINZIC.
D'accord, donc là vous estimez que finalement les équipes DINZIC sont suffisantes peut-être pour établir les missions. Est-ce qu'il faudra encore plus de personnes? Est-ce qu'il y a des prévisions de recrutement dans les années à venir? Parce que finalement l'informatique, le numérique prend de plus en plus part. Est-ce qu'il y a des prévisions tout simplement ou pas du tout?
Alors on n'a pas la connaissance de prévisions très précises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit l'évolution de la DINZIC depuis 2011... On peut s'imaginer qu'on va s'adapter aussi aux futures évolutions du numérique dans l'administration. Et donc, c'est vrai que quand on voit aussi même les types de recrutement qui sont effectués dans l'administration, pas que dans la DINZIC, on voit bien que de plus en plus de métiers dans l'administration vont avoir trait au numérique et à l'innovation. Mais en tout cas, en termes chiffrés...
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes autour du numérique en général. Que ce soit dans les ministères ou au sein de la DINZIC, il y a effectivement une volonté d'aller promouvoir le numérique. Maintenant, concrètement, où vont se situer les effectifs? Comment est-ce que ça va être réparti au moyen? Il n'y a pas encore de plan. En tout cas, il n'y a pas d'augmentation prévue pour l'instant.
D'accord. Bon, on a une première présentation. Peut-être, est-ce que tu as une question, Étienne? N'hésite pas à le dire parce que...
Je pense que ça sera abordé plus peut-être sur les réflexions d'entrepreneurs d'intérêt général, mais vous parlez beaucoup d'incubateurs, de start-up d'État. C'est vrai que la notion de start-up est assez, politiquement orientée maintenant, ou alors du moins elle est quand même beaucoup utilisée. Je pense que start-up d'État est quand même un objet assez à part, donc je pense que ça peut être intéressant de développer sur cette notion.
Oui, si vous le souhaitez. Donc, start-up d'État, en effet, ça peut paraître un peu antinomique, tout comme entrepreneur d'intérêt général. Et finalement, c'est le but d'avoir créé ces mots-là pour montrer qu'en fait, dans l'État, dans le service public, on pouvait aussi adapter des méthodologies pour débureaucratiser un tout petit peu le service public. Et donc, l'idée d'une start-up d'État, elle est très simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des agents publics qui rencontrent dans leur quotidien et dans l'application de leur mission un certain nombre d'irritants qui font qu'ils ne, qui n'ont pas le sentiment de mener à bien leur mission. Donc, par exemple, une start-up d'État qui est assez emblématique, qui s'appelle mesaide.gouv.fr, ça vient du ministère des Affaires sociales, qui fait le constat que le taux de non-recours aux aides sociales est très élevé. Et donc, il faut trouver un moyen de faire parvenir à ceux qui le nécessitent les bonnes informations sur les démarches à effectuer pour recevoir ces aides. Et donc, à partir de cet irritant, le service que propose beta.gouv.fr, c'est d'exfiltrer cet agent public de son administration et en un temps très court, pouvoir construire un produit qui rencontre cet irritant et améliore le service auprès d'un usager. Et donc après, il y a toute une méthodologie qui est mise en place par beta.gouv.fr pour mettre en place un produit rapidement, pour faire des tests utilisateurs et pour déployer un certain marché, mais ce n'est pas vraiment le terme puisqu'on est dans le service public, mais pour trouver de plus en plus d'utilisateurs et à partir de leur retour, améliorer ce produit et faire en sorte qu'un service public numérique devienne le service public amélioré.
À ce propos, la méthodologie est ouverte et donc toutes les administrations ont aussi la possibilité de la consulter, de s'y former. Maintenant, effectivement, le terme « start-up d'État » peut prêter à confusion. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne le nommerait peut-être pas exactement de la même manière, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment la volonté d'aller résoudre un irritant et d'avoir des méthodologies un peu modernes pour résoudre un problème concret.
Donc, et voilà, et se dire qu'on évite de faire des cahiers des charges très longs, très coûteux, qui finalement font aboutir à une solution qui n'est pas adaptée aux utilisateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye d'interpeller aussi l'administration autour de ces termes-là, puisqu'on voit aussi dans les administrations qu'on accompagne qu'il y a beaucoup de croyances sur ce que veut dire être entrepreneur, créer une start-up. Et du coup, nous, on permet de donner des clés à ces administrations-là pour développer des nouvelles méthodes.
En quelque sorte, c'est la mise en œuvre de développement agile, finalement.
Il y a en effet une grande philosophie autour de l'agilité au sein de l'incubateur, mais il y a d'autres philosophies qui complètent en effet cette méthodologie.
Ok, donc après avoir parlé de ces irritants, c'est un mot que j'aime beaucoup, hein, on va pas faire une pause musicale, alors on va écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lacey et on se retrouve juste après.
The ground down.
Ah bon, excusez-moi, je viens de louper en retour. C'est les joies du direct. Donc, nous venons d'écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lacey. Donc, c'est une musique qui est disponible en licence CC by SA et vous retrouvez la référence évidemment sur l'April. Donc, vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc 93.1 en Ile-de-France. Et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc juste avant la pause, nous parlions donc de la DINSIC et d'Etalab, donc avec Laurent Joubert, Mathilde Debras et mon collègue Étienne Gonu. Donc on a eu une présentation générale. Donc maintenant, on va essayer de parler un peu plus en détail de la place du logiciel libre dans la stratégie de la DINSIC et d'Etalab, à travers différents sujets, politique de contribution, on parlera aussi d'entrepreneurs d'intérêt général, quelle est la place du logiciel libre, les Blue Hats, le projet Blue Hats, on nous expliquera ce que c'est que le projet Blue Hats. Donc Laurent, par quoi souhaites-tu commencer, Laurent Joubert, sur cette place du logiciel libre? Est-ce que par exemple, alors j'ai proposé par une question plus directe, l'April, nous défendons une politique volontariste en faveur du logiciel libre, qui est évidemment celle de la priorité au logiciel libre. Alors est-ce qu'au niveau de la DINSIC et Etalab, est-ce que c'est la priorité, est-ce que c'est une autre stratégie qui est mise en œuvre?
Alors pour répondre directement à cette question, aujourd'hui, notamment dans la loi République numérique de 2016, il y a effectivement un encouragement au logiciel libre et au standard ouvert qui est proposé. Il y a eu beaucoup de débats justement sur la position. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que côté DINSIC, on met vraiment en avant la valeur d'usage et on ne souhaite pas être dogmatique sur cette partie-là. Ce qui compte avant tout, c'est la valeur d'usage pour le citoyen, pour l'usager et être sûr que ça réponde aux différents besoins. Donc là, en fonction des différents sujets, on peut être amené à prendre différents choix. Donc, ce qui est intéressant, on ne veut pas être dogmatique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on souhaite quand même que le libre soit systématiquement évalué, en tout cas. Pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, le libre a quand même beaucoup de caractéristiques intrinsèques qui collent bien au service public.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu me parles de valeur d'usage, etc. Mais j'aurais tendance à te dire que le logiciel libre, c'est ce qui cadre vraiment avec les valeurs d'usage pour les personnes.
Oui. Donc on retrouve un petit peu ces caractéristiques intrinsèques de transparence, la possibilité de le modifier, la possibilité de l'étudier. Donc ça, c'est important. Et par rapport aussi aux questions qu'on a pu se poser sur la première partie de l'émission sur les transcriptions, avoir cette capacité de redevabilité des administrations vis-à-vis des citoyens et de la transparence, eh bien ça passe par le code source. Et donc c'est vrai que cette capacité-là est importante. Et puis si on remonte un petit peu même en théorie sur, je dirais, les principes d'un service public, ne serait-ce qu'en termes de continuité, eh bien le logiciel libre, il apporte des garanties. On n'est pas lié à un éditeur particulier aussi. Donc ne serait-ce que pour garantir un service public numérique, s'appuyer sur un logiciel libre, ça permet une certaine indépendance, une certaine pérennité, qui sont autant d'attraits et d'atouts pour délivrer un service public. Donc voilà, on est sur une approche non dogmatique, on encourage le logiciel libre et les standards ouverts. Maintenant, effectivement, ce n'est pas exclusif et il n'y a pas une priorité forte ou marquée au logiciel libre.
D'accord, donc il n'y a pas de priorité, mais effectivement, il y a une démarche qui est quand même plutôt positive. Alors comment concrètement elle se met en œuvre? Quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui à la DINSIC ou à la mission Etalab dans ce cadre?
Alors là, si on fait un petit historique quand même, sans remonter en 98, etc. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que de fait de ces caractéristiques-là, le libre, ça fait quand même longtemps que le secteur public s'y intéresse. Et particulièrement en France. Là, quelque part, c'est un point qui est positif aussi.
La France a été précurseur.
On est précurseur au niveau international. Concrètement parlant, ça s'est traduit, je pense, par la création de marchés de support logiciel libre assez tôt dans les années 2000. Je pense qu'un peu l'élément fondateur, ça a été la circulaire Hero de 2012, qui a quand même été une circulaire signée par un Premier ministre, où on évoque justement le logiciel libre, on constitue la création de communautés internes à l'État sur la bureautique, les développements, l'environnement de travail. Donc ça, c'est déjà des premiers aspects concrets.
La circulaire Hero, c'est la circulaire intitulée sur le bon usage du logiciel libre dans les administrations, donc qui était effectivement signée par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, et qui était issue des travaux, alors à l'époque ça devait s'appeler la DISIC, qui était à l'époque dirigée par Jérôme Filippini. Et effectivement, il n'y avait pas de priorité au logiciel libre dans cette circulaire, mais c'était finalement des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et c'est vrai que nous, on avait salué cette circulaire à l'époque comme vraiment un point très important, une marque très importante dans la prise en compte du logiciel libre et des bonnes pratiques logiciels libres dans les administrations.
L'April en avait même fait une traduction anglaise officieuse.
Exactement. Pour, alors, je ne m'en souvenais pas. Merci, Laurent. Effectivement, oui.
Donc ça, c'est un point important. Mais ce qu'il faut retenir aussi de cette circulaire-là, c'est qu'elle était majoritairement, pas que, mais majoritairement axée sur la consommation de logiciels libres au sein de l'administration. Donc, on était vraiment dans une logique d'utilisation de logiciels libres pour rendre les services publics. Peut-être que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'opérer un changement culturel et on essaye de plus en plus d'aller vers une logique de contribution.
D'accord. Alors, donc, ça, c'est la politique de contribution au logiciel libre. Effectivement, c'est dans l'informatique, finalement, on peut consommer de l'informatique, mais on peut aussi produire de l'informatique. Alors c'est vrai qu'historiquement, dans l'administration, de nombreux logiciels sont produits aussi par les prestataires, donc je pense qu'on en parlera. Donc aujourd'hui, il y a une politique de contribution formelle en faveur du logiciel libre qui est mise en place donc, par la DINSIC avec un document dont la première version, si je me souviens bien, mais tu me corrigeras, ça date de l'an dernier, 2018.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Et donc cette politique de contribution, en quelques mots, alors je précise qu'on on reconsacrera une seconde émission à ce sujet-là. Donc plus en détail, notamment avec Bastien Guéry, qui est référent logiciel libre au sein de la mission Etalab, courant février, je pense. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette politique de contribution? Quels sont ses objectifs?
Alors, les objectifs, c'est vraiment, peut-être avant d'aller sur les objectifs de cette politique en tant que telle, les objectifs du logiciel libre pour nous, c'est aussi de gagner en maîtrise de notre système d'information. Donc ça, c'est quand même un point important. Aussi, en termes d'efficience, sur tout ce qui est mutualisation de code, donc être capable d'aller plus en mutualisation des différents projets et bénéficier des réutilisabilités du logiciel libre. Je pense qu'il y a aussi un objectif en termes de recrutement ou de ressources humaines, parce que quelque part, le logiciel libre, c'est aussi un moyen de valoriser et les compétences des développeurs internes et donc de montrer en fait la valeur que peut avoir un agent à travailler sur ce type de logiciel. Donc on a beaucoup de cibles qui sont identifiées sur cette partie logiciel libre et dont une qui est un peu la quintessence du tout, mais qui est quand même favoriser la démocratie, être capable, enfin on va reprendre le code ESLO, mais être capable par ces logiciels, en reprenant des exemples comme APB, donc tout ce qui est admission post-bac, où on a vu en fait que de plus en plus, le code pouvait influer sur des décisions qui concernent la vie des gens. Donc ça, c'est aussi le sens de l'intérêt général.
Code ISLO, pour rappeler, c'est le titre d'un livre de Laurence Lessig. C'est un des livres préférés d'Étienne Gonu, donc tu lui fais plaisir. Donc oui, et alors ça c'est parti d'INSIC. On va revenir évidemment sur la DINSIC. Alors côté Etalab, tout à l'heure, Mathilde, tu as parlé du programme d'entrepreneurs d'intérêt général. Alors est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est, quels sont les objectifs et quelle est la place évidemment du logiciel libre dans ce programme? Est-ce qu'il est petit, grand?
Absolument. Donc, le programme Entrepreneurs d'intérêt général, c'est un programme qu'on a créé il y a maintenant 2 ans. Et l'objectif, c'est de pouvoir attirer des personnes qui savent coder, qui savent faire du design, qui savent analyser des données, les exploiter et les restituer au sein de l'administration afin d'améliorer son fonctionnement. Donc, on est sur un programme d'attractivité de ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, un des plus grands problèmes de l'administration, c'est quand il s'agit de recruter des personnes qui pourraient avoir vocation à travailler dans le privé, il est très difficile de les attirer avec des fiches de poste et des salaires. Et donc, le programme Entrepreneurs d'intérêt général essaye de répondre un peu à cette problématique. L'idée, c'est qu'on sélectionne au sein de plusieurs ministères des projets qui ont trait à l'exploitation des données, à l'amélioration de services. Et qu'ensuite, on recrute tous les ans une promotion de 30 entrepreneurs qui ne pensaient peut-être pas un jour travailler dans le service public et consacrent 10 mois pour résoudre des défis au sein des ministères dont les projets ont été sélectionnés. Et en fait, une des valeurs du programme, c'est l'ouverture. Donc ça a beaucoup de sens, ça a l'ouverture à des nouveaux talents, mais l'ouverture des codes sources. Et donc, en fait, l'obligation des ministères qui font partie de ce programme, c'est que toutes les ressources qui sont produites sont en logiciel libre.
Donc c'est une obligation donc du programme d'entrepreneur d'intérêt
Exactement.
Général.
D'accord. Et donc ça en fait une force assez, assez importante, puisque depuis la création du programme, on a un dépôt, en l'occurrence sur GitHub, mea culpa, où on a l'ensemble des codes qui sont développés par les entrepreneurs d'intérêt général, et qui d'ailleurs sont assez efficaces et assez puissants, puisque d'une promotion d'entrepreneurs d'intérêt général à l'autre, des scripts et des librairies qui sont créés par les entrepreneurs d'intérêt général sont réutilisés. Donc on crée aussi des potentiels de mutualiser des outils. Typiquement, quand on parle d'analyse de données, de data science, aujourd'hui on a besoin d'avoir des méthodes pour faire des graphes qui font des relations entre les données. On a besoin d'avoir des méthodologies pour pseudonymiser des données ou pour indexer des données. Aujourd'hui, ce qui est produit par ces entrepreneurs d'intérêt général peut servir d'un usage à l'autre dans l'administration. Et donc, pourquoi je raconte ça ? C'est parce que ces exemples-là démontrent aussi la force, on va dire même financière, du logiciel libre dans l'administration. C'est qu'on peut éviter de construire deux fois les mêmes outils lorsqu'il y en a un qui a été créé en très peu de temps par une personne qui était volontaire pour rejoindre le service public. Donc voilà, donc en résumé, dans le programme Entrepreneur d'intérêt général, le logiciel libre, ça fait partie c'est un pilier. Et peut-être plus largement au sein d'Eta Lab, c'est la petite insiste que je voulais faire pour continuer les questions. Ce qui est assez fort, c'est qu'il y a quand même une culture du logiciel libre qui est très ancrée, puisque la plupart des membres d'Eta Lab sont plutôt libristes, même s'il y a des débats entre nous, donc ça c'est super intéressant. Et depuis la loi pour une république numérique, Laurent l'a rappelé, l'ouverture des codes sources fait partie des obligations au titre de cette loi. Et du coup, depuis, on entreprend pas mal de travaux avec des administrations qui souhaitent volontairement ouvrir des codes sources qui prennent des décisions individuelles. Donc, par exemple, Laurent a évoqué admission post-bac. On a entrepris récemment l'ouverture du code source de la taxe d'habitation, qui permet en plus d'expliciter la façon dont celle-ci est calculée. Donc vous allez me dire qu'elle va bientôt être supprimée, elle ne va pas être totalement supprimée. Et par ailleurs, ça permet aussi de comprendre en fait, les tenants, les aboutissants du calcul de cette taxe.
Alors, c'est excellent parce que ça me fait venir plein de questions. Donc, je vais toutes les envoyer à la fois et ça va vous concerner tous les deux. Alors déjà, sur application de post-bac, effectivement, on va rappeler qu'on a des progrès aujourd'hui parce que tu le dis, donc, tu as cité une plateforme d'hébergement de code. Donc aujourd'hui, l'État met directement en ligne sur une plateforme d'hébergement de code son code. Et en 2016, je rappelle que la première version de l'APB, application de post-bac, avait été envoyée de version imprimée. Donc 2 ans plus tard, il y a quelques progrès. Donc j'ai plusieurs questions. Alors une question qui est en lien avec les contrats. Tout à l'heure, tu viens de dire que donc, les entrepreneurs d'intérêt général, alors, entendons-nous bien dans le terme entrepreneur, c'est un terme neutre qui intègre toutes les personnes, quel que soit leur genre. C'est des CD, donc c'est 10 mois, c'est des CDD. Donc j'ai plusieurs questions. Est-ce que ces personnes ont vocation après à rester dans l'administration ? Une autre question, c'est pourquoi faire le choix de recruter des gens compétents en CDD très courts plutôt que sur des contrats pérennes ? Parce que finalement, les besoins en informatique au niveau de l'État ne vont pas diminuer, mais au contraire vont augmenter. Tu as cité donc GitHub, qui est une plateforme d'hébergement de code qui appartient aujourd'hui à Microsoft. Est-ce que dans les projets de l'État, donc c'est une question aussi peut-être pour Laurent, est-ce qu'on va avoir un code.gouv.fr, c'est-à-dire une plateforme pour que l'État héberge ses propres codes ? Donc voilà, quelques questions pour vous deux qui me viennent à l'esprit après cette intervention.
Je commence par les deux premières questions. Donc les entrepreneurs d'intérêt général, est-ce qu'ils ont vocation à rester dans l'administration ? Alors, en fait, quand on a créé le programme, on ne s'était pas trop posé cette question-là, puisqu'on était vraiment en expérimentation également sur voilà, de nouvelles manières de recruter. Il s'avère que la première promotion, elle comptait un peu moins de 15 entrepreneurs. Et sur ces 15 personnes, il y en a 3 qui ont rejoint l'administration. Et plusieurs qui ont continué à interagir de près ou de loin avec l'administration, en tant que freelance ou au sein d'associations. Donc il y a une certaine continuité. Cette année, la deuxième promotion s'est arrêtée il y a quelques semaines. Il y en a certains qui continuent. Et donc l'enjeu, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie force de ce programme pour créer de nouveaux parcours au sein de l'administration. il faut encore l'outiller parce que, et ça fait le lien avec votre deuxième question, aujourd'hui, on fait des contrats de 10 mois pour des raisons très simples. C'est que ça nous permet de recruter rapidement et sans passer par des contrôles budgétaires que je n'expliquerai pas parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller vite et de passer un peu outre les règles classiques. Donc, on est vraiment dans une, on va dire, dans une zone démilitarisée du recrutement dans l'État. Et c'est ce qui est aussi très, très, très agréable parce que du coup, comme c'est présenté un peu comme un concours, on ne publie pas des fiches de poste incompréhensibles. On publie une mission.
Un objectif, un projet.
Avec, on présente l'équipe, etc. Donc, on accélère tout ça. Donc, voilà, ça dure 10 mois pour ces raisons un petit peu de démilitarisation. Est-ce que ça a vocation à être pérenne? On l'espère parce que du coup, je pense qu'on expérimente depuis 2 ans, bientôt 3, un nouveau modèle de recrutement. Après, il faut que ça continue à s'éprouver. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ministères qui font appel à nous plutôt un peu en continu pour nous demander des conseils sur la manière de recruter un développeur, un ou une développeur, un designer, des data scientists, etc. Donc, on voit bien qu'on a trouvé aussi un certain modèle de recrutement qui peut être intéressant au-delà même du programme. Donc, je laisse la parole à Laurent sur code.gouv.
Donc, Laurent Joubert.
Pour compléter aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est une première étape. Donc, ça permet d'avoir quelqu'un pendant 10 mois et de proposer à un indépendant qui n'a pas forcément, je dirais, des revenus stables dans le temps, d'avoir là, pendant 10 mois, une fiche de paye et de ensuite, grâce à ça, pouvoir être recruté dans l'administration. Parce qu'il y a 2 moyens de rejoindre l'administration, c'est soit sur concours, soit par contrat. Et par contrat, si, en tant qu'indépendant, s'il y a des variations importantes d'un mois sur l'autre, c'est assez difficile pour l'administration d'être capable d'établir un contrat. Donc là, notamment pour des profils un peu plus slasher, donc, qui ont l'habitude de passer d'une activité à une autre régulièrement.
Je ne connaissais pas ce terme.
Ça permet de recruter des profils un peu atypiques.
C'est quand les gens se présentent en disant « je suis développeur / chef de projet ». Slasher.
Merci
Mathilde.
C'est les
gens qui font plusieurs activités. D'accord. C'est de la pure activité, mais dans le temps.
D'accord, ok. Et donc, ma question sur...
Sur GitHub.
Voilà, ou plutôt, pour être plus positif, sur un futur code, parce qu'il y a un data.gouv.fr, comme l'a dit Mathilde en introduction. Est-ce qu'il y aura bientôt un code.gouv.fr? Et je complète ma question. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la volumétrie des projets qui sont mis sur GitHub ou Framagit, parce que je crois que vous utilisez aussi Framagit, par l'administration? Est-ce qu'on sait déjà combien il y en a, en fait?
Oui, alors, il y a un recensement qui est en cours. En fait, le premier point, peut-être, donc il y a cette politique de contribution qui est un document important parce que c'est un document officiel, c'est un document qui fait autorité sur une doctrine de publication et de contribution à des projets libres existants pour tous les informaticiens de l'État. Donc, qu'ils soient agents titulaires ou contractuels. Donc ça, déjà, c'est un point important et qui cadre aussi la capacité des prestataires, donc des sociétés de services qui travaillent pour l'État et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à des logiciels libres. Donc ce document, il fait autorité. C'était important de le publier parce qu'il y avait beaucoup de verrous, peut-être psychologiques ou autres, mais tant que les choses ne sont pas explicitement autorisées dans l'administration, ça peut créer une certaine confusion. La politique de contribution y répond.
Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'un des points très positifs de la circulaire Hérault de 2012, c'est d'avoir donné une légitimité et une sorte de protection aux agents de l'État qui faisaient du logiciel libre, parce que tout d'un coup, ça devenait un document signé par le Premier ministre de l'époque.
Tout à fait. Donc là, un des objectifs de la politique de contribution, c'est aussi de valoriser et de reconnaître l'agent qui contribue, pour montrer qu'effectivement, alors évidemment, tant que ça rentre dans le cadre de ses missions, mais que c'est quelque chose d'intéressant et le fait de coder en mode ouvert, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose sur lequel les autres agents vont pouvoir capitaliser. Donc il y a toutes ces pratiques-là qui sont insérées. Il y a 2 parties importantes dans la politique de contribution, des principes un peu génériques et vraiment des modalités pratiques qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir facilement contribuer ou publier un nouveau code source en logiciel libre.
Donc je suppose qu'il y a des conseils sur les licences à choisir, ou en tout cas les choses à vérifier. Si par exemple on contribue à un code qui est déjà sur une licence, je suppose qu'il y a les relations aussi avec les prestataires, parce que évidemment aujourd'hui beaucoup de code dans l'administration est développé par les prestataires. Donc obtenir effectivement un transfert de droit pour la mise sous licence libre, des choses qui n'étaient peut-être pas pensées dès le départ dans les années avant.
Alors là, la vocation de cette politique de contribution est vraiment de s'adresser aux développeurs. Donc,
De l'administration.
De l'administration ou de la société de service qui travaille sur un projet de l'administration. Donc c'est très pragmatique là-dessus. Elle nécessite un certain nombre de prérequis, comme la gestion de clauses contractuelles pour vérifier qu'effectivement la possibilité de publier en logiciel libre est inclue dans le contrat. En tout cas, voilà, c'est un document qui officialise les bonnes pratiques sur la contribution d'un développeur.
Sur les licences. Est disponible à quel endroit?
Le document, il est sur numérique.gouv.fr.
D'accord, donc sur numérique.gouv.fr. Et si je ne me suis pas trompé, j'ai mis la référence sur la page de l'April. Donc vous pouvez retrouver ce document qui doit faire une quinzaine de pages, si je me souviens bien, ou 20 pages.
Alors c'est un document web en plus.
C'est un document web, j'ai une version PDF. Donc en tout cas sur numérique.gouv.fr.
Tout à fait. Et qu'il est possible d'ailleurs d'amender, de corriger. Si jamais il y a des coquilles, vous pouvez contribuer.
Et à l'époque, il y avait un appel à contribution de façon ouverte pour effectivement avant la rédaction finale.
Tout à fait. Sur la partie licence, il y a une certaine contrainte parce que d'un point de vue autorité, il y a un décret qui autorise en fait pour la publication de nouveaux codes sources un certain nombre de licences. Là, l'objectif, c'était pas d'être dans une logique de prolifération de licences libres. Donc il y a deux familles de licences qui sont autorisées, les familles permissives et les licences avec obligation de réciprocité. On ne va pas aller dans le détail technique.
On rentrera dans ce détail technique lors d'une prochaine émission avec notamment Bastien Guéry, référent logiciel libre à Etalab. Effectivement, c'est un décret qui fait suite à la loi pour la République numérique et qui précise donc les types de licences autorisées et dans ces types de licences, le nom des licences qui ont été listées.
Donc ça, c'est important. Donc, il y a le volet autorité qui est hors politique de contribution. La politique de contribution donne quelques orientations sur le choix de la licence. Si jamais, justement, il faut plutôt s'orienter vers une licence avec obligation de réciprocité ou plutôt sur une licence permissive. Sur la partie de l'entrepôt des codes sources, des forges, de l'emplacement où on peut collaborer, le point qui a été retenu, c'est que du moment qu'on est du logiciel libre, ce qui est important, c'est d'être capable d'interagir avec d'autres développeurs. Donc, en fait, le mot d'ordre qu'on a retenu, avec pas mal de discussions qui ont été menées, notamment à l'international, avec d'autres États aussi, parce que c'est une politique de contribution qui n'a pas été faite uniquement du côté franco-français, c'est de pouvoir, en fait, choisir n'importe quelle plateforme. L'idée, c'est ça, où, en fait, on va trouver les contributeurs qui peuvent venir sur le projet. Donc GitHub est effectivement une des plateformes de référence sur le sujet, mais en fait, il n'y a pas de restriction spécifique. Si vous voulez être sur la forge Framagit, OW2, GitLab, FSFE, que sais-je, en fait, ce qui est important, c'est on va mettre en avant les capacités sociales de trouver les contributeurs. Le code est ouvert, donc en termes de réversibilité, il y a quand même la possibilité de le reprendre, de travailler, de le passer sur une autre instance. Et peut-être un partenariat qui est intéressant de souligner, le partenariat qui a été fait avec Software Heritage, qui est en fait la bibliothèque d'Alexandrie des codes sources, et pour lesquels justement ils vont archiver les dépôts de codes publiés par l'administration. Et ça a vocation à être centralisé et justement à donner un petit peu cette réversibilité pour garantir qu'on ne perdra jamais les codes ou l'historique de ces codes, parce que Software Heritage garde l'intégralité de l'historique aussi. Donc voilà, donc GitHub, pas GitHub, chacun est libre de sa décision. Nous, on est plutôt sur une logique. L'avantage de Git, c'est d'être décentralisé. Donc il y a cette capacité-là, on en profite, on la met en avant. Et on laisse les chefs de projet choisir l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise. La seule contrainte qu'on pose, c'est d'être sur des comptes d'organisation. On ne veut pas être sur des comptes personnels qui ont vocation un petit peu à disparaître ou autre. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre une certaine gouvernance sur la création de comptes d'organisation.
D'accord. Merci pour la réponse. L'un des défis, donc, c'est la création d'une communauté de contributeurs. Et je pense qu'on va en reparler après la pause musicale. Mais juste avant la pause, donc, je vais préciser que Software Heritage, c'est un projet notamment porté par l'INRIA et Roberto Di Cosmo. Et nous aurons Roberto Di Cosmo dans Libre à vous. Alors, je ne sais pas quand pour le moment, mais en tout cas, nous l'avons convié à venir pour effectivement présenter ce projet absolument magnifique. Donc, nous allons faire une pause musicale. Avant de passer donc de revenir sur le sujet, de parler notamment de la contribution, donc nous allons écouter la traversée de Max Livio avec Ico Tuff by Skunky Skunky. Bon, je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement, et on se retrouve en tout cas juste après ça. Bien, vous êtes de retour sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous avons à écouter la traversée de Max Livio, donc, qui est disponible en licence CC by SA. La référence est évidemment sur le site de l'April, donc april.org. Et nous allons continuer notre sujet donc, avec Mathilde Bras, Étienne Gonu et Laurent Joubert donc, sur la DSI de l'État, entre guillemets, la direction informatique de l'État, quelque part. Donc nous parlions juste avant la pause musicale de l'importance du défi plutôt de créer des contributeurs, des contributeuses. C'est-à-dire le logiciel libre, ce n'est pas simplement du code, c'est aussi des gens qui y contribuent. Donc il y a un projet au niveau ou une initiative, je ne sais pas, tu vas me dire peut-être, Laurent, qui a été lancé récemment, donc, qui s'appelle le Blue Hats, donc Hackers d'intérêt général. Alors qu'est-ce que c'est que cette initiative, Laurent Joubert?
Tout à fait. Donc c'est le référent logiciel libre Bastien Guéry de l'État qui a eu l'idée de Blue Hats l'objectif c'est de fédérer toutes les personnes qui travaillent sur des projets d'intérêt général, des projets libres d'intérêt général. Le point qui est important, c'est que donc, ça ne se limite pas aux développeurs, vous soyez utilisateur, designer, data scientist ou autre. L'objectif, c'est de pouvoir permettre la création d'une communauté de gens qui travaillent sur des projets utilisés par l'administration ou qui pourraient être utilisés par l'administration, et de favoriser aussi ces liens entre la sphère civile et la société civile et l'administration. Donc, l'objectif, c'était un petit peu d'ouvrir les personnes qui travaillaient sur ces projets, leur permettre d'être reconnues à l'extérieur et d'attirer aussi des gens qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de travailler à l'intérêt général et en fait d'avoir un impact concret sur des projets pour que ce soit directement utilisé par l'administration. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de la création de cette communauté.
D'accord, donc c'est une création récente, quelques semaines, je dirais.
Alors c'est un test.
C'est un test.
Ça a été évoqué lors de la dernière émission et c'était juste avant le Paris Open Source Summit. Donc Caroline Corbal en avait parlé.
Oui.
Le point qui est important, c'est effectivement, on reprend un petit peu une culture hacker avec le côté blue hat. Donc l'objectif n'était pas de faire de l'anglais, mais donc les chapeaux bleus pour justement montrer que c'est quelque chose que tout le monde peut s'accaparer ou autre. Mais donc il y a ce côté hacker, c'est-à-dire ce côté je vais essayer de modifier et d'utiliser les règles existantes pour obtenir un impact direct au sein de l'administration. C'est en expérimentation. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'en faire un mouvement ou quoi que ce soit, mais si des gens peuvent venir avec n'importe quel chapeau bleu au sein d'un événement public pour dire ben, voilà, en fait, moi, je suis mainteneur, je suis à l'origine d'un projet d'intérêt général et je souhaite pouvoir en discuter avec d'autres. Ça me permet d'être identifié, ça me permet de discuter avec d'autres. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là ont tous une fibre un peu spéciale de vouloir travailler à l'intérêt général. Et donc, créer cette communauté peut être vraiment bénéfique pour l'administration et la forcer un petit peu à s'ouvrir et à découvrir ce qui se passe en dehors des murs de l'administration centrale.
D'accord. Alors le terme hacker, souvent, on croit que c'est des personnes très techniques, alors qu'en fait, pas du tout. Donc Mathilde Brun, est-ce que ce programme, cette initiative Blue Hat, ce programme entrepreneur d'intérêt général, c'est réservé justement aux gens, aux personnes ayant des compétences techniques fortes, ou au contraire, est-ce que tout le monde peut participer ?
Alors justement, je pense que le programme Hacker d'intérêt général et entrepreneur d'intérêt général, c'est justement pouvoir se faire rencontrer des mondes différents. Donc Laurent a dit la société civile et l'administration. Et au sein de l'administration, c'est en effet des personnes qui ont des compétences techniques sur le numérique et d'autres qui ont des compétences techniques sur l'administration. Et pour donner quelques exemples, au sein du programme entrepreneur d'intérêt général, on a eu des histoires assez incroyables où des personnes qui avaient une spécialité de métier, donc en l'occurrence c'était les archives, se sont initiées aux méthodes agiles, au développement numérique collaboratif, etc. Et donc on voit bien que ces espaces, donc hackers d'intérêt général, entrepreneurs d'intérêt général, sont des espaces de médiation pour aussi faire monter en compétence à la fois l'administration sur le numérique et les personnes plus compétentes en informatique sur l'administration. Donc c'est assez intéressant. Il y a un autre exemple qui personnellement, moi, me touche beaucoup, c'est des anciens entrepreneurs d'intérêt général qui sont en train de monter une association sur la transparence des médias et qui sont en train de mettre en place une communauté. Alors c'est pareil, c'est très expérimental, mais une communauté de personnes qui veulent créer des outils open source à disposition... à disposition des journalistes, de chercheurs, de citoyens, pour décrypter, déchiffrer la façon dont les médias parlent de l'actualité, la façon dont l'actualité parle de la presse, etc., etc. Donc on voit bien que ces espaces-là, c'est des espaces de confiance, c'est des espaces de médiation, et c'est des espaces d'apprentissage qui paraissent quand même assez essentiels aujourd'hui pour aussi déconstruire certaines croyances et adresser aussi quelques, quelques irritants que peuvent rencontrer des personnes non geeks comme moi qui parfois commencent à s'énerver quand un logiciel libre n'est pas ergonomique. Et donc ça permet aussi de faire entrer des designers dans tout ça, qui sont très importants pour aider la prise en main de certains outils.
Eh bien, excellent, tu parles de design, ça me fait penser qu'il y a une excellente émission que vous pouvez écouter sur Cause Commune, un podcast, donc c'est l'émission Pause Commune avec Manuel Dorn. Alors je ne me souviens pas, alors corrige-moi Olivier.
Alors c'est Geoffrey
Manuel. Ah, c'est Geoffrey Manuel, c'est Corben, excuse-moi, c'est le frère. Bon, alors je le refais, donc c'est avec Geoffrey Dorn.
Ouais, et c'est l'épisode 14 de Pause Commune.
Et donc c'est l'épisode 14 de Pause Commune. Le Pause Commune, donc c'est tous les mardis de 12h à 14h et j'avais écouté l'émission, Geoffrey vraiment est excellent et il fait du design. Bah écoutez, merci Mathilde et Laurent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette première émission ? Ou est-ce que ça vous paraît bien ? Non ?
En tout cas, moi, merci de votre invitation. En tout cas.
Moi, ça me paraît très bien. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Vous allez rester avec nous pour le sujet suivant. Donc, je rappelle, nous avions avec nous Mathilde Debras et donc, de la mission Etalab et Laurent Joubert de la DINSIC. Nous aurons prochainement, alors je n'ai pas encore la date fixée, mais nous aurons donc le référent logiciel libre. Donc Bastien Guéry, dont il a été question plusieurs fois. Et je vais juste finir par... effectivement, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Laurent ou Mathilde a expliqué qu'il y avait des libristes présents effectivement à la DINSIC et à la mission Etalab. Et c'est vrai que, bon, bah, on ne va pas le cacher, avec Laurent, on se connaît depuis de longues années, avec Bastien Guéry aussi. Et je pense que c'est un point très positif de ces évolutions, c'est d'avoir des gens qui viennent des communautés, donc qui connaissent les communautés du libre et qui travaillent effectivement au sein de l'administration. Donc vraiment, c'est une évolution positive. Alors, nous allons aborder notre dernier sujet. Donc Étienne Gonu a un défi, parce que nous allons aborder un sujet qui n'est quand même loin d'être simple, mais qui est très important. Donc depuis le 1er janvier 2018, donc c'est évidemment tout récent, toute personne utilisant un logiciel ou système de caisse doit détenir un document attestant de la conformité de son outil à la réglementation visant à lutter contre la fraude à la TVA. Un dispositif inscrit à l'article 286.3 bis du Code général des impôts est initialement issu de la loi de finances pour 2016, date à laquelle l'April, l'association dont nous faisons partie, s'est engagée pour la promotion et la défense des logiciels libres ayant des fonctions d'encaissement, dont le sujet logiciel libre de caisse et loi de finances. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation sur ce sujet très important ?
Bah, tu as déjà très bien résumé, je pense, ce qu'est ce dispositif. Alors effectivement, on s'est mobilisé sur ce sujet dès qu'il a été voté, donc fin 2015 dans la loi de finances pour 2016. Comme tu dis, il est en vigueur depuis 2018, mais depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire depuis moins d'une semaine, c'est la fin d'une période de tolérance administrative. C'est-à-dire que la première année, c'est souvent le cas, hein, tant qu'on montre qu'on fait de son mieux pour s'adapter aux dispositions, l'administration se montre tolérante. Là maintenant, voilà, on va dire qu'elle prend ses pleins effets. Ce qui est intéressant, je trouve aussi par rapport à la manière dont tu as commencé à introduire, c'est que ce dossier est très intéressant, notamment parce qu'il est révélateur, on va dire, d'un rapport plus ouvert, plus confiant vers le logiciel libre. Alors on voit pas mal l'autorité publique ou même les législateurs, et là ça s'est retrouvé dans cette loi, ont un rapport à l'informatique qui reste assez ancré dans un paradigme d'une informatique pensée en silo, d'une informatique opaque et privatrice. Et c'était un peu le point de départ. C'est là où on était très inquiet sur ce dispositif réglementaire. Et ce dossier a été très marqué par des rapports et des échanges très ouverts, très constructifs avec l'administration. Et de ce point de vue-là, c'était un dossier très intéressant sur lequel travailler. Et en fait, d'une situation qui au départ, et je vais développer par la suite, mais qui était au départ très inquiétante pour les libertés informatiques, on en arrive aujourd'hui à une situation qui nous paraît très acceptable en fait pour le logiciel libre. Bien sûr, il y a des pistes d'amélioration, mais on n'est plus là dans la phase de défense des libertés informatiques face à une véritable menace est passée. Et maintenant, voilà, on est à envisager des pistes d'amélioration. Et donc, ça c'est quelque chose de très positif. C'est agréable aussi d'avoir des résultats positifs et des échanges aussi constructifs avec l'administration. Donc comme tu disais, le dispositif, son but c'est de lutter contre la fraude à la TVA avec des systèmes de caisse. En gros, certains logiciels permettaient à l'époque en fait d'effacer des ventes, et quand en gros l'administration fiscale venait contrôler, elle pouvait pas la vente lui était dissimulée et la personne pouvait en gros garder la part de la TVA pour elle-même. Donc voilà, c'est du marché noir, quoi. Donc le but, comme tu l'as exprimé, pour lutter contre ça, c'est que les personnes, on n'est pas obligé d'utiliser un logiciel pour faire les encaissements, mais si jamais on l'utilise, bah, il faut avoir ce document qui dit effectivement que le logiciel utilisé satisfait les conditions alors, d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Donc ça, en fait, c'est la transcription de principes comptables classiques. Donc il y a deux possibilités, effectivement, soit une autorité de certification. La plus connue, sans doute, c'est l'AFNOR, par exemple, valide la conformité du logiciel. Donc là, elle va valider une version d'un logiciel. Ou alors, c'est l'entreprise. Une entreprise, généralement pour le logiciel libre, ce sera un intégrateur. Donc, une entreprise qui va attester pour son client individuellement de la conformité du logiciel qu'elle va utiliser. C'est globalement quand même plutôt le mécanisme qui sera le mieux adapté au logiciel libre. Alors... Comme je disais initialement, ce texte était très inquiétant pour nous parce que, tel qu'il était rédigé, il y avait une forme d'interdiction de fait de la liberté de modification. Et donc, en gros, il imposait un modèle pensé en boîte noire. Ce qui faisait qu'en fait, il interdisait à l'utiliser. Il pouvait créer, tel qu'on pouvait le lire, une forme de responsabilité infinie pour l'éditeur. C'est-à-dire que si l'utilisateur fait une modification et qui transforme, enfin qui fait que le logiciel devient non conforme avec la loi, qu'en est-il de la, qu'en serait-il donc de la responsabilité de l'entreprise qui a fourni l'attestation ? Donc ça, c'était vraiment notre inquiétude première. Et donc c'est ce qui a initié notre action dès janvier 2016, avec cette question déjà de comment garantir la liberté de modification des logiciels libres de caisse par leurs utilisateurs, sans faire porter donc une forme de responsabilité infinie pour les entreprises, pour les éditeurs, et plus généralement finalement aussi pour agir pour sortir du paradigme d'une informatique pensée en boîte noire. En fait, ce genre de dossier, c'est aussi justement l'occasion, et ça s'est montré plutôt favorable, d'une certaine action de sensibilisation auprès de l'administration. Je fais mini parenthèse pour parler d'un principe dans le droit et en fait qui était justement ici l'objet principal, c'est celui du principe de proportionnalité. En gros, il faut qu'il y ait... nous, on accepte très bien la lutte contre la fraude à la TVA et bien sûr un principe d'intérêt général, répond à l'intérêt général, mais il faut que les libertés, pour répondre à cette problématique, les libertés doivent être aussi peu limitées que nécessaire. Donc autant, aussi peu de contraintes que nécessaire, autant de libertés que possible. Donc c'est vraiment un principe fondamental, un des premiers d'ailleurs qu'on apprend lorsqu'on étudie le droit. Et donc notre tâche, c'était celui-là. Ok, vous défendez un objectif d'intérêt général, un objectif légitime, mais il n'est pas nécessaire de limiter autant les libertés informatiques pour y parvenir, et au contraire, même le logiciel libre est plein de vertus, en fait, et notamment par la transparence, il peut être un outil qui va favoriser dans vos objectifs. Donc on peut dire voilà, qu'on a été globalement bien entendu, que maintenant on a un texte beaucoup plus proportionné, des définitions beaucoup plus claires, et notamment une définition claire et précise du logiciel libre basée sur les quatre libertés. Alors avant de sommairement rentrer dans les détails du dispositif, en quoi finalement il répond à ses prérogatives. Je vais faire très rapidement un bref historique. Et pour ça, je mentionne rapidement un document qui est absolument fondamental, qui est le BOFIP, le Bulletin Officiel Finances Publiques Impôts, et en fait qui correspond à la manière dont l'administration entend appliquer, comment elle interprète la loi et comment elle entend appliquer le dispositif. Et il est extrêmement important parce qu'il est opposable à l'administration, la valeur de loi. Et c'est là-dessus qu'on a pu agir pour améliorer la situation. Donc en 2016, la loi est passée. On a rencontré Bercy assez rapidement, en janvier, des rapports, des échanges constructifs, des bons échanges. Ce qui fait qu'en août 2016, une première version du BOFIC, donc la section consacrée au sujet, qui porte le joli nom de BOI TVA Déclat 30-10-30. Le lien sera bien sûr sur l'April, sur le site de l'April. Donc ça, c'est une première avancée. Notamment, elle était importante dans cette section parce qu'il y avait donc une définition claire du logiciel libre et qui reconnaissait finalement explicitement la compatibilité du logiciel libre au dispositif. En juin 2017, le gouvernement a répondu dans un communiqué de presse à une inquiétude croissante, notamment exprimée par un collectif important d'auto-entrepreneurs, parce qu'il y avait une problématique importante, un questionnement important sur la place le périmètre exact du dispositif, à savoir est-ce que les logiciels de gestion sont contenus dans le dispositif. Là, le gouvernement a dit clairement non. Et ensuite, ils ont donc dans ce communiqué de presse, et ils ont traduit cela dans la loi de finances pour 2018. Effectivement, c'est vraiment les fonctions de caisse qu'ils vont apporter. En fait, ce communiqué de presse nous a permis aussi de reprendre contact avec Bercy. On a renoué des échanges avec une nouvelle équipe, mais tout aussi attentive à nos arguments. Ils ont ensuite fait un appel à commentaires sur leur projet d'une mise à jour du bulletin officiel de leur doctrine, à laquelle on a contribué. Et cette nouvelle doctrine, enfin cette mise à jour de la doctrine fiscale du BOFIP, a été publiée en juillet 2018. Et là encore, on voit vraiment un effort de clarification important et avec des avancées à notre sens pour une meilleure prise en compte du logiciel libre. Et certaines de nos propositions ont été reproduites dans ce BOFIP. Alors, sans rentrer dans les détails, voilà, ce qui est important donc, pour le logiciel libre, c'est que déjà une bonne définition du logiciel libre, la notion d'éditeur qui est importante, alors qu'il faut vraiment entendre dans un sens très large. Et c'est parce qu'elle est justement large qu'elle est utile et souple. Elle permet une clarification de responsabilité entre ce qui va relever de la responsabilité de l'éditeur et de la responsabilité de l'utilisateur et des utilisatrices. En gros, il dit tout simplement, il distingue tant que la personne modifie les fonctions, des parties du logiciel qui ne concernent pas les fonctions de caisse, elle est parfaitement libre de le faire sans que cela remette en cause la validité du document qu'elle détient pour justifier de la conformité de son logiciel. En revanche, si elle va modifier une fonction qui va relever de l'encaissement, donc des quatre conditions importantes que j'évoquais, d'inaltérabilité, etc., à ce moment-là, elle va être considérée comme éditrice elle-même du logiciel. Le document va être invalidé et donc elle va devoir refaire, voilà, réobtenir ou faire certifier le logiciel nouvellement développé. Et alors, on détaille cela mieux, hein, on a fait une analyse et je vous invite à aller la lire si ça vous intéresse. On a aussi une liste où on discute de ces sujets, vous pouvez avoir plus de détails. Mais c'est vraiment là où le dispositif, enfin, où le BOFIP répond à nos inquiétudes principales. Et en distinguant bien ce qui va donc relever de la responsabilité de chacun et aussi en abaissant le niveau des obligations. On avait peur qu'une forme d'obligation absolue et techniquement irréalisable, notamment sur ce qu'on a appelé sur la notion d'inaltérabilité, en mettant un petit peu en reconnaissant ce qu'on appelle un peu l'état de l'art, c'est-à-dire que tant qu'on fait au mieux par rapport au niveau des connaissances et aux possibilités techniques au moment où on le fait, ce qu'on a appelé l'homme de l'art, ce que l'homme de l'art est capable de faire, on est considéré comme satisfaisant les conditions. Donc le texte est nouveau, il va vivre, il va y avoir des jurisprudences, on va continuer à suivre ce texte. Mais voilà, comme je vous disais, ce qui est absolument à noter, on est parti très loin et d'un texte initial relativement désastreux, pour dire les choses. On est vraiment arrivé, suite à des échanges très constructifs, à un texte vraiment acceptable. Et on va donc continuer dans ce objectif de renverser le paradigme d'un rapport très fermé à l'informatique. On va suivre donc les différents sujets sur l'attestation pour soi-même. C'est des sujets très variés et assez complexes, il est vrai. Mais voilà, je pense qu'il y a encore... on est dans une démarche positive qu'on va essayer de poursuivre avec l'administration.
Mais écoute, merci Étienne pour cette présentation. Donc, comme tu viens de le signaler, tu as publié une analyse détaillée donc à la fois sur le site de l'April et sur le site linuxfr.org. C'est dans les références sur la page consacrée à l'émission. Je tiens à remercier le travail qui a été fait à la fois par les bénévoles de la liste comptabilité et par Étienne sur ce sujet, parce que c'est un échange entre bénévoles et salariés de l'association. Et aussi saluer l'écoute, effectivement, comme tu le disais, du ministère des Finances. On partait de loin, mais avec des gens qui écoutent et qui lisent même les commentaires sur linuxfr, comme nous l'a confirmé l'une des personnes lors d'un rendez-vous à Bercy. On a pu avancer, donc merci Étienne. Et donc les personnes qui veulent lire une analyse plus détaillée peuvent aller sur le site de l'April ou sur le site de LinuxFR.
Voilà, la liste de discussion est un très bon endroit pour obtenir des informations même pratiques. Si vous avez des questions pratiques sur ce dispositif, n'hésitez pas à venir faire un tour.
Et l'inscription est ouverte à toute personne. Donc nous approchons de la fin de l'émission, alors on va passer à quelques annonces. D'abord, une boîte vocale. La radio Cause Commune a mis en route récemment une boîte vocale pour si vous avez envie de faire connaître votre travail, si vous voulez parler d'un projet important. Donc cet outil sympa et utile vous permet de laisser un message pour parler d'un projet qui vous tient à cœur, ou de déclamer un poème, ou de faire un coup de gueule. Vous pouvez appeler le numéro suivant, donc c'est le 01 88 32 54 33. Donc je répète, 01 88 32 54 33. Votre message passera peut-être à l'antenne, ça dépend des lutins radiophoniques comme il est indiqué sur le message d'accueil, et même plusieurs fois sans doute. La durée maximale d'un message est de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour faire parler d'un projet, de faire un coup de gueule, en tout cas de passer le message que vous avez envie de faire passer. Alors dans les actualités à venir, donc on va aller plus rapidement que d'habitude, car comme nous sommes hebdomadaires, on peut se permettre d'aller plus rapidement, vu que chaque semaine on pourra faire des annonces. Alors des amis en Suisse nous ont demandé d'annoncer les rencontres hivernales du Libre 2019, qui auront lieu du 25 au 27 janvier 2019, donc à Saint-Sergue en Suisse. Donc ces rencontres sont des événements qui ont pour but annuellement de rassembler les forces suisses du logiciel libre, et préoccupations annexes, comme il est marqué sur le site, donc sans doute données publiques et autres. Les personnes qui organisent souhaitent que les inscriptions se fassent avant le 13 janvier. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc le site, alors je vais vous donner l'URL, c'est donc 2019.hivernal.es. Et si vous ne retenez pas le site, vous allez sur le site de l'Agenda du Libre et vous retrouvez cet événement, donc agendadulibre.org. Dans les autres événements, donc jeudi soir à Paris à la FPH, donc à la soirée de contribution au Libre, comme chaque jeudi. L'apéro April parisien a lieu vendredi 15 janvier, donc fin de semaine. 11 janvier, effectivement. 11 janvier, bonne remarque, Étienne sera présent. Il y a un apéro à Montpellier le 17 janvier, April. Hein. Un premier apéro à Marseille le 18 janvier 2019. Et évidemment, vous retrouvez sur le site donc, de l'Agenda du Libre tous les événements qui se passent en France et ailleurs. Comme je vous le disais en début d'émission, donc en 2018, notre émission était une mensuelle, mais pouvoir traiter encore plus de sujets, être réactif par rapport à l'actualité, donc nous avons décidé que l'émission deviendrait un rendez-vous hebdomadaire. Donc à partir de ce mardi, donc on se retrouvera dès la semaine prochaine, et je crois que cette émission la semaine prochaine est attendue quand même par beaucoup de monde. On va parler des conditions d'accès aux documents administratifs, avec la présence vraiment, là on les salue, donc de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, Tanguy Morlier de Regards Citoyens et Marc Dandelot, le président de la CADA. Alors nous parlerons effectivement de la mise en œuvre d'accès à documents administratifs et nous parlerons notamment d'un avis récent de la CADA qui est en lien à la fois avec Next Impact, l'April et un des ministères qui a du mal sans doute à mettre en œuvre la priorité ou en tout cas les directives logicielles libres qui est le ministère de la Défense qui maintenant aujourd'hui s'appelle le ministère des Armées. Donc je vous invite la semaine prochaine à écouter l'émission sur l'accès aux documents administratifs et ça concerne tout le monde. Donc notre émission se termine, vous retrouvez sur notre site web donc april.org toutes les références utiles et ainsi également que le site de la radio donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, d'éventuelles suggestions, des points d'amélioration. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve donc la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.